suite de notre émission spéciale Plus de Fraternité jusqu'à 16h et nous sommes toujours dans cette thématique consacrée à l'éco-citoyenneté et au développement durable en compagnie de Martine et de ses invités.
Alors un établissement dans lequel on parle beaucoup de développement durable, d'écologie solidaire, c'est l'IUT de Béthune. Sophie Cellier, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors vous êtes assistante de communication au sein de cet établissement qui veut adopter une conduite éco-responsable et je dirais que cela vous convient parfaitement car vous-même dans votre vie personnelle vous sensibilisez autour de vous aux stratégies de réduction des déchets.
Oui, tout à fait. Donc avec mon mari, nous nous intéressons à la question écologique depuis longtemps maintenant. Et nous nous sommes lancés dans une démarche zéro déchet à l'automne 2015. On est quatre à la maison et on était assez sidérés par la quantité de déchets qu'on produisait chaque semaine. On a donc embarqué notre petite famille dans ce qu'on peut appeler une transition écologique. On tient d'ailleurs un blog qui s'appelle La transition des castors, où on partage notre expérience. Alors concrètement, au quotidien, on essaie de réduire au maximum nos déchets ménagers, ceux qui partent dans la poubelle noire. Pour ce faire, on a commencé par réduire nos déchets à la source, donc quand on fait nos courses, hein, on évite les produits industriels suremballés, on privilégie le fait maison, on achète des ingrédients de base dans des emballages recyclables ou même consignés, ou encore on achète les ingrédients en vrac en apportant nos propres contenants au magasin. Ça nous a permis de réduire vraiment le volume de notre poubelle, de même que le compostage des déchets organiques, donc tout ce qui est épluchures, marre de café, reste alimentaire, on met tout ça au compost et la poubelle noire a vraiment diminué depuis. Plus généralement, on a aussi changé notre mode de vie et notre mode de consommation. On essaie de réduire notre impact en utilisant par exemple des alternatives lavables aux produits jetables, des produits naturels au quotidien pour le ménage par exemple, ou encore on privilégie les achats d'occasion, le troc, etc.
Sophie, vous n'avez jamais pensé aux poules pour les déchets alimentaires?
Alors si, on y a pensé, sauf qu'on habite une maison en ville avec une toute petite cour bétonnée, donc on n'a pas trop la place pour mettre des poules. Du coup, on a pensé plutôt à construire un lombricomposteur, donc un composteur d'appartement.
Tout à fait. Alors, on rappelle, Sophie, que la gestion des déchets est une activité indispensable à la protection de l'environnement. Alors, dites-moi, est-il facile de transmettre cette fibre écologique à des jeunes étudiants?
Alors, c'est vrai que la protection de l'environnement, ça semble pas toujours être une préoccupation première pour certains étudiants. Mais on a eu l'occasion, avec mon mari, de discuter de cela avec certains d'entre eux dernièrement, puisque l'IUT a organisé une journée du développement durable le 10 mars dernier. Donc on y a tenu un stand sur la réduction des déchets. Parmi les étudiants qu'on a rencontrés, c'est vrai qu'une partie d'entre eux était finalement déjà sensibilisée, ils effectuent déjà des petits gestes au quotidien pour réduire leur impact. D'autres, en revanche, n'y faisaient pas particulièrement attention ou avaient des préjugés. On a parfois tendance à croire que respecter l'environnement, ça va coûter plus cher, alors que pas forcément. Si on pense à fabriquer sa lessive, par exemple, avec du savon de Marseille, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter une lessive industrielle qui, en plus, est beaucoup plus polluante. Enfin, voilà, on leur a montré avec des astuces simples comment réduire leurs déchets au quotidien. On leur a montré que ça ne compliquait pas forcément la vie et que ça pouvait être tout à fait compatible avec leur vie d'étudiant et leur budget d'étudiant aussi.
Et en l'occurrence, en matière de déchets, il y a beaucoup à faire sur le plan éducatif, je crois, car nous nous en sommes rendus compte ce week-end lors du nettoyage de printemps organisé par la région. C'est hallucinant de voir, par exemple, le nombre de canettes ramassées. C'est vrai que l'incivilité à la vie dure, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Sophie.
Oui,
tout à fait. Et alors, il faut savoir ce qu'ils ne savent pas toujours, parce que je vais dire ce qu'ils ne savent pas toujours, ces jeunes, parce que bon, les canettes, en général, je pense que c'est une boisson qui est bue par les plus jeunes d'entre nous. Il faut savoir qu'une canette en verre jetée dans la nature mettra 4000 ans pour se décomposer. Et par exemple, pour le plastique, qui n'est pas un matériau inerte, il faudra 300 à 500 ans pour qu'il se décompose. Alors là, bon, je crois que tout est dit. Alors, Sophie Cellier, au sein de l'IUT, quels sont les projets qui ont vu le jour? On a presque envie de dire que l'éco-geste le plus simple au sein d'une structure scolaire, ce serait la récupération de papier, mais je suppose qu'elle existe.
Oui, tout à fait. Donc à l'IUT de Béthune, on est engagé dans un partenariat avec la Poste qui s'appelle Recigo. Donc ça, c'est depuis 2014 pour le recyclage du papier. Alors, tous les personnels administratifs dans les bureaux, les enseignants et les étudiants sont invités à jeter le papier dans un bac spécifique. Ce bac est ensuite collecté par la poste avec un respect de la confidentialité des documents, ce qui est assez important dans les administrations. Et puis le papier est ensuite trié par une entreprise d'insertion et recyclé par des papetiers français. En 2015, on a recyclé comme ça 374 kilos de papier via ce partenariat.
Alors, y a-t-il des autres projets, des autres initiatives ?
Alors oui, tout à fait. Voilà un an que nous avons mis en place, par exemple, une pièce à troc à l'IUT pour favoriser le partage, la réutilisation des objets, plutôt que de s'en séparer en les jetant. Nous essayons également de sensibiliser les usagers à ce qu'on appelle les éco-gestes. Hein, donc ça peut aller du tri du papier jusqu'à éteindre les lumières quand on quitte une pièce, fermer les fenêtres des salles de classe le soir, éteindre les appareils électriques.
Les voilà, ordinateurs.
Donc, voilà, par exemple. Et il y en a beaucoup dans les établissements scolaires. On travaille aussi actuellement sur un projet de jardin participatif. Donc là, dans la cour de l'IUT, il y a des arbres fruitiers qui ont été plantés à l'automne. Et bientôt, on aura une parcelle dédiée pour semer des légumes. Donc l'idée, c'est de permettre aux étudiants, au personnel, de mettre les mains dans la terre en créant du lien social. Et aussi de permettre à chacun, finalement, de récolter gratuitement des fruits, des légumes, de manger plus sain et plus local, gratuitement, et en ayant le plaisir de récolter ce qu'on a semé.
Eh bien oui, hein, parce que Sophie, l'environnement est un sujet très vaste et très diversifié, et sa protection est devenue un enjeu majeur. Bon, chacun le sait à présent, sa préservation est un pilier du développement durable, comme la protection de notre nature et nos écosystèmes. Et on vient de voir donc avec vous, Sophie Cellier, que même dans un établissement scolaire, comme en l'occurrence l'IUT, eh bien des choses, on va dire, en relation avec la nature sont possibles.
Oui, et puis c'est vrai qu'à l'IUT de Béthune, on a la chance d'avoir de nombreux espaces verts autour des salles de cours. C'est un cadre qui est idéal pour permettre aux étudiants, aux professeurs de renouer avec la nature. Et puis, nous faisons partie de l'Université d'Artois, qui est reconnue depuis mai dernier, refuge de la Ligue pour la protection des oiseaux. Mmh. C'est la première université qui fait cette démarche. Et donc, on a eu l'installation de nichoirs, d'hôtels à insectes, etc. C'est assez surprenant pour certains dans un établissement scolaire.
Alors, vous m'avez parlé d'une pièce à troc.
Oui, alors la pièce à troc, c'est un endroit qui est inspiré des gift box anglo-saxonnes, ce qu'on appelle des boîtes à troc. Hein. C'est une pièce en libre accès dans l'IUT où chacun peut déposer des objets dont il n'a plus l'utilité. Chacun peut également prendre les objets qui l'intéressent gratuitement, librement, il n'y a pas de registre, hein. ça marche sur la confiance en nos usagers. Les objets, du fait, retrouvent une deuxième vie au lieu de finir en déchetterie. Et puis, nous avons installé aussi un tableau pour les petites annonces qui concernent les objets plus volumineux. Donc, on reste sur le principe de gratuité, de don, de partage. Hein. Il n'est pas question de se mettre des petites annonces de vente d'objets. Les gens peuvent aussi proposer du partage de savoir-faire, par exemple, une aide en mathématiques contre un coup de main pour rédiger un CV, par exemple. Voilà, tout est possible. On veut vraiment inviter les gens à mutualiser leurs biens et leurs savoirs.
C'est ce qu'on appelle de l'écologie solidaire.
Voilà, tout à fait.
Alors, justement, avez-vous l'impression, Sophie, qu'il y a une prise de conscience de la part des jeunes ? Récupération, recyclage, réduction de déchets. Paraît-il vouloir vraiment s'impliquer dans ces nouvelles démarches ?
Bah, c'est vrai que ce soit via les réseaux sociaux ou encore nous on voit avec notre blog, on a l'impression que il y a vraiment des ateliers de réparation, les Repair Cafés, des ateliers de récup, etc. qui fleurissent un peu partout. Les gens ont envie de fabriquer des choses eux-mêmes, etc. Je pense que les jeunes, mais aussi les moins jeunes d'ailleurs, hein, prennent conscience de l'urgence qu'il y a à agir. S'interroge sur le monde qui sera laissé aux générations futures. Et les initiatives locales, individuelles, sont, je pense, de plus en plus nombreuses et les gens prennent conscience qu'ils ont le pouvoir d'agir, qu'il n'est pas trop tard pour que chacun fasse sa part.
Le principe du colibri, encore une fois.
Voilà.
Sophie Cellier, merci. Je rappelle que vous êtes assistante de communication à l'IUT de Béthune et on vous dit vraiment merci, Sophie.
De rien, au revoir.
Au revoir.
Ma station, ma région, ma passion,
Radio Plus.
J'écoute à la radio les nouvelles du monde. Notre terre, les enfants, hélas, et moribonde. Et je doute que ceux qui sont à son chevet aient vraiment l'intention de vouloir la sauver. Préparez les vaisseaux, il vous faudra peut-être, comme l'oiseau, son nid, quitter cette planète. Ce qui fut le berceau dès lors ne sera plus qu'un morceau de rocher infiniment perdu. Allons, enfants du nouveau monde, les jours d'espoir sont droit devant. Quelque part dans le ciel, une terre féconde attend. Elle va faire de vous des hommes et vous deviendrez ses enfants. Alors protégez-la, ne refaites pas comme avant. Pour ce nouveau départ, est-il bien nécessaire de faire renaître un dieu qui suscite les guerres? Pour peu que cette terre soit déjà habitée, évitez de leur mettre une croix sous le nez. Et puis n'inventez rien au diable les conquêtes. Là, laissez-vous bercer au gré des découvertes. Nous n'en serions pas là, qu'en sera-t-il de vous sans la poudre à canon, sans la roue? Allons, enfants du nouveau monde, quelque part dans le ciel, une terre vous attend. Depuis la première seconde du temps, elle va faire de vous ses hommes, elle deviendra votre jardin. Alors prenez-en soin, on peut la détruire comme un rien. Encore un petit mot, veillez aux différences. Dans la normalité, la vie a peu de chance. Vous êtes lourd d'espoir et de rêves brisés, que le chemin est long jusqu'à l'éternité.
Je te raconterai mon chemin. mais on est bien ensemble comme le fleuve et la mer. Je perds le sud, toi le nord, quand se trouvent nos corps et toutes nos différences s'envolent quand on s'endort. J'aime le gris de ton ciel, tes pavés sous la pluie, tu es dans mon soleil et toutes ces mélodies. Je te donne l'aquarelle d'un éternel printemps pour ta neige en dentelle et tous tes Noëls blancs. Je n'ai pas des yeux clairs, je suis de l'été, toi de l'hiver, mais on est bien ensemble comme le fleuve et la mer. Je perds sur toi le nord quand se trouvent nos corps et toutes nos différences s'envolent quand on s'endort. Je n'ai pas des yeux clairs, je suis de l'été, toi de l'hiver, mais on est bien ensemble comme le fleuve et la mer. Je n'ai pas des yeux clairs, je suis de l'été, toi de l'hiver, mais on est bien ensemble comme le fleuve et la mer.
Plus de fraternité. Émission spéciale de Radio Plus le jeudi 23 mars de 9h à 16h. Au programme, débat, initiative associative avec de nombreux invités pour évoquer les thématiques de discrimination, d'intergénération, de développement durable, de démocratie participative ou encore de responsabilisation des jeunes. Une émission en public en direct des studios de Radio Plus, 6 rue Coué à Douvrin. Un rendez-vous en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement le jeudi 23 mars de 9h à 16h dans le cadre de la semaine Fête de la Fraternité. Plus d'infos, www.radioplus.fr et www.laligue-npdc.org. Et vous restez bien sûr avec nous à l'écoute de cette émission spéciale. Dans quelques instants, nous poursuivons notre thématique consacrée à l'environnement, à l'éco-citoyenneté et au développement durable. Et nous recevrons au micro de Radio Plus Pierre Titelin, enseignant chercheur au sein de l'IUT de Béthune, qui va nous parler de l'association Cyclo Campus. Et pour en découvrir justement un petit peu plus, c'est dans quelques instants sur les ondes du 104.3. Et nous, on revient après un peu de musique. Et c'est avec Christophe Maé, C'est ma terre sur Radio Plus.
On oublie un peu facilement d'où l'on vient, d'où l'on part. Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin, c'est bizarre. Sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps à l'écart. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, ma seule voix, qu'on n'y touche pas. On alimente nos peurs qu'en détournant nos regards de nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir. Et si l'on apprenait à se prendre la main, à se voir autrement que des inconnus qui ne font rien des histoires. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères parlant. Bonhomme, non, c'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois. C'est mes frères autour de moi, mes repères. Alors qu'on n'y touche pas, qu'on n'y touche pas. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je vois. Qu'on n'y touche pas, c'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix. Qu'on n'y touche pas, c'est ma terre.
Et 22 minutes sur les pendules de Radio Plus. Et c'était Christophe Maé à l'instant avec C'est ma terre. La terre, sa protection et particulièrement également l'impact de nos déplacements. C'est ce dont il va être question dans la suite de notre thématique consacrée à l'éco-citoyenneté et au développement durable en compagnie de Martine et de son invité.
Alors oui, Julien, merci. Alors créé en juillet 2011, un cyclocampus fait le pari de l'accès au vélo pour tous les étudiants et à des prix défiant toute concurrence. Alors le but de l'association étant de réhabiliter ce moyen de transport propre et traditionnel et le rendre accessible à tous, et tant mieux si cela fait baisser le bilan carbone autour de l'université. Pierre Titelin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le créateur de cette association. Alors, l'idée vous est venue comment ?
Alors, en fait, à la base de cette association, il y a une rencontre entre plusieurs collègues de l'université d'Artois, donc Nathalie Lecoq, Denis Fourmeau et moi-même, en fait, qui sommes des cyclistes au quotidien. En fait, on voyait tous les ans sur le campus de Béthune des vélos qui étaient abandonnés sur les grilles du CROUS, en fait, de la résidence universitaire. Et puis on se disait, bah, c'est un peu dommage, en fait, ces vélos qui sont abandonnés par les étudiants qui repartent chez eux. Le campus de Béthune, en fait, il est situé à un endroit où on n'est pas très loin de la gare, mais quand même suffisamment loin pour que ce soit un peu long à pied. Pas très loin du centre, mais pas non plus trop près. Donc, en fait, le vélo, c'est vraiment un moyen de déplacement là où on est situé, qui est vraiment très pratique, en fait, pour les usagers du campus. Et en fait, mon collègue Denis était allé au Danemark il y a quelques années, et il avait vu un système de vélo qui était vendu aux étudiants ou prêté aux étudiants, je me souviens plus bien, pour une année. Et en fait, moi, à cette époque-là, en fait, j'étais aussi assez impliqué dans un atelier vélo sur Arras. Donc en fait, l'idée est venue à ce moment-là de créer un atelier vélo sur Arras pour essayer de favoriser l'utilisation du vélo au quotidien pour tous les usagers du campus. Alors au début, c'était vraiment ciblé pour les étudiants, et puis comme l'association a un peu grossi, on avait un peu plus de vélos, on s'est permis d'élargir à tous les usagers du campus, donc que ce soit les étudiants mais aussi le personnel de l'université.
Alors justement, donnez-nous un petit peu les principes de fonctionnement.
Alors au niveau du fonctionnement, en fait, à l'atelier, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des vélos qu'on nous donne. Alors d'ailleurs, en fait, j'en profite pour faire un appel. Hein. Si vous avez des vélos qui traînent dans vos garages et qui vous servent plus, en fait, nous, on les récupère. Ce qu'on fait, c'est que quand ils arrivent, on regarde dans quel état ils sont. Si on peut, on les retape. On les retape. Ensuite, on les vend aux étudiants. Vous disiez tout à l'heure, prix défiant toute concurrence. Effectivement, on les vend pas cher, entre 30 et 40 euros pour les étudiants. Et ensuite, en fait, l'étudiant, il peut s'en servir pendant toute l'année. Et puis, à la fin de l'année, s'il en a plus besoin, bah, il peut nous le rendre. Et nous, on lui rachète à l'association avec 5 euros de moins. En fait, on lui fait payer 40 euros, par exemple. Et à la fin de l'année, on lui rachète 35 euros si le vélo est en bon état. Et pendant toute cette année, en fait, en tant que membre de l'association, l'étudiant a le droit de venir aussi à l'atelier pour entretenir son vélo ou pour le réparer. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'aide à la réparation de vélo. C'est le deuxième enfin la deuxième branche un peu de l'association, c'est de faire de l'aide à la réparation de vélos. C'est-à-dire que quelqu'un vient avec son vélo et nous on peut mettre à disposition des outils, des compétences, parce qu'il y a des bénévoles qui sont à l'atelier pendant les permanences pour aider les gens à réparer leur propre vélo.
Voilà. Donc recyclage, vente, entretien, voire réparation. Bon, il y a quand même du travail, dites-moi. Alors, vous êtes combien dans cette association, Pierre? Parce que est-ce qu'il y a des spécialistes du service technique vélo? Car bon, la bonne volonté ne garantit pas toujours les compétences. Et c'est vrai qu'un vélo, il faut que ce soit à l'usage, que ce soit quand même bien sûr pratique, mais qu'il soit fiable, disons. Bon, pour éviter les accidents.
Tout à fait. Donc, pour répondre à votre première question au niveau du nombre, en fait, on est environ 50 adhérents par an. Faut savoir qu'il y a à peu près 75% de ces adhérents, ce sont des étudiants, et 25% c'est des membres du personnel. Parmi ces adhérents, en fait, il y a un certain nombre de bénévoles actifs. Je dirais qu'il y a 6 ou 7 bénévoles actifs dans l'association. C'est des gens justement qui sont formés en fait par d'autres bénévoles en fait. Pour réparer les vélos et pour tenir les permanences, pour aider les autres à se débrouiller et à réparer leurs vélos. On a aussi donc parmi ces bénévoles actifs deux ou enfin voire trois, ça dépend des moments de l'année, étudiants qui sont employés pour travailler dans l'association et qui viennent tenir en fait des permanences tous les midis pour accueillir les personnes en fait qui souhaitent réparer leur vélo ou acheter un vélo.
Alors la première ambition est bien sûr d'aider les étudiants qui n'ont pas toujours les moyens de s'offrir un vélo neuf, hein, on va encore parler encore une fois d'économie solidaire, on va dire. Mm-hmm. Aider aussi ceux qui ne veulent pas faire une grosse dépense pour un moyen de transport qui ne leur servira finalement que le temps de leurs études. Alors justement, Pierre Tétlin, qui sont les demandeurs? Est-ce que vous avez réussi à cibler les demandeurs?
Alors oui, en fait, c'est principalement, c'était encore plus vrai les premières années, principalement des étudiants étrangers. C'est des étudiants qui arrivent sur Béthune pour un cursus qui peut durer un an, deux ans, trois ans, donc qui arrivent en France, qui n'ont pas forcément un moyen de locomotion, pas forcément le permis, ou etc. Donc qui n'ont pas de vélo la plupart du temps, et qui, à la fin de leurs études, éventuellement ils repartent dans leur pays, donc ils n'auront plus besoin non plus de leur vélo. Donc en fait, ces étudiants-là, c'est vraiment ceux qui nous achètent le plus de vélos. On a aussi donc quelques collègues en fait qui sont intéressés pour acheter les vélos. Alors on leur vend un petit peu plus cher parce que notre cible première c'était vraiment les étudiants. Mais c'est un peu ça. Il y a aussi des étudiants qui viennent d'autres régions. On a des étudiants de Clermont-Ferrand qui sont venus il y a pas longtemps, qui nous ont acheté leur vélo. Ils sont restés deux ans ou trois ans à l'université, puis ils nous l'ont vendu à la fin. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Donc on a bien compris que votre association ne fait pas de différence entre étudiants, hein, et justement c'est le thème de ces émissions aujourd'hui. Donc il n'y a pas de discrimination, bien évidemment, et au contraire, on a compris aussi que les étudiants étrangers, ils sont sans doute ils sont les bienvenus, Pierre Tétlin.
Oui, effectivement. En fait, les étudiants étrangers, c'était un peu notre cible numéro un, en fait, hein, quand on a réfléchi sur le fonctionnement de l'association. On s'était dit que c'était vraiment à eux qu'allait s'adresser le mieux le service. Et puis, il faut savoir aussi que parmi les étudiants qu'on embauche, il y a aussi justement des étudiants étrangers. Là, en ce moment, les étudiants qui sont embauchés, il y en a plusieurs qui sont étrangers. Ouais.
Je l'ai dit, c'est un concept qui relève presque de l'économie sociale et solidaire, car Pierre, en plus, il y a derrière une ambition écologique et pas des moindres, dans le recyclage, bien sûr, mais aussi dans la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Et je crois que ça, c'est une chose qui vous tient particulièrement à cœur.
Oui, tout à fait, hein. Donc que ce soit moi ou les collègues qui ont créé l'association, c'était vraiment dans le but d'aller plus loin. Alors même sans parler de recyclage, parce que si on parle de recyclage, c'est des matériaux qui sont refondus, par exemple, ce seraient des matériaux qui seraient refondus. Là, c'est pas vraiment du recyclage. Ce qu'on fait, nous, c'est vraiment de la réutilisation, de la remise en service d'objets en fait qui peuvent avoir une deuxième vie. Donc c'est encore plus vertueux que le recyclage. c'est avant de recycler, ben, on essaie de réparer. Donc dans une société où il y a de plus en plus d'obsolescence programmée, en fait, cette volonté de réparer, elle disparaît de plus en plus parce qu'on a des objets qui sont qui s'usent, qu'on peut plus forcément réparer. Les vélos, c'est vraiment un cas d'objets qu'on peut réparer assez facilement. Et donc en fait, on en profite en fait de l'utilisation de ces vélos pour faire vraiment de la réparation. Il faut savoir que quand il y a un vélo qui nous arrive, s'il n'est pas réparable, ou si on considère que ça prendrait trop de temps pour le réparer, trop d'énergie, trop d'argent, parce que parfois il faudrait acheter toutes des pièces, ce qu'on fait, c'est que nous on récupère toutes les pièces qui sont encore utilisables, on les démonte, on les stocke, et ensuite en fait, si quelqu'un vient pour réparer son vélo et qu'il a besoin d'une pièce particulière, bah, il peut aller piocher justement dans ce tas de pièces en fait de récupération, et il paye ses pièces à prix libre. Donc s'il veut, un nouvel étrier de frein par exemple, bah, il va donner 1 euro, 50 centimes, 2 euros, enfin voilà, il donne ce qu'il veut pour utiliser ces pièces de récupération. Voilà.
Donc c'est vraiment le projet éco-citoyen par excellence, hein, Pierre. Alors, a-t-il obtenu tout de suite le soutien de l'université, et si oui, comment se traduit-il ce soutien?
Alors oui, effectivement, en fait, on a eu vraiment un gros soutien de l'université, de ses composantes. Il faut savoir que sur Béthune, il y a 2 composantes de l'université. Il y a l'IUT et la faculté de sciences appliquées de Béthune. Et en fait, au démarrage du projet, en fait, l'IUT nous a aidé vraiment au tout début pour nous fournir un local. On avait une petite pièce, en fait, dans un atelier de l'IUT. Et aussi pour acheter quelques outils pour démarrer l'activité. Ensuite, l'université nous a financer les emplois étudiants, donc les étudiants qui viennent travailler à l'atelier en fait sont payés par l'université dans le cadre du dispositif emploi étudiant, et donc on a 10 heures par semaine qui est financée en fait par l'université. Et après, donc la deuxième composante de Béthune, la faculté de sciences appliquées, nous a aidé aussi parce que là elle nous a fourni notre nouveau local, on pouvait plus être à l'IUT, donc en fait elle nous a fourni un nouveau local et nous a aidé à l'emménager. En fait, on est situé dans un bâtiment qui s'appelle le bâtiment Robert Hasbrook, qui est géré, enfin, dans des pièces qui sont gérées par la faculté de sciences appliquées.
Alors, on va quand même dire, Pierre Titelin, que dans certains pays, la pratique d'encourager les déplacements courts en utilisant le vélo est assez coutumière, dans d'autres universités françaises aussi d'ailleurs, mais bien souvent, il s'agit de prêts de vélo, alors que dans votre association, on parle de vente avec possibilité de revente à l'asso. Est-ce que la différence est notable?
Alors oui, effectivement, nous on a fait le choix de la vente dès le départ, en fait, pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, ça permet de responsabiliser l'acquéreur du vélo. À partir du moment où le vélo appartient à la personne qui s'en sert, elle va être plus attentive à son entretien, à ne pas se le faire voler, etc. Donc, en plus, finalement, en fait, ça revenait moins cher à l'étudiant à la fin de l'année, parce que, comme je vous l'ai dit, finalement, l'étudiant, pour 1 an d'utilisation du vélo, ça lui aura coûté 5 euros plus les 2 euros de l'adhésion à l'association. Donc, en tout, ça coûte 7 euros pour louer un vélo sur 1 an, avec en plus le service de pouvoir venir réparer son vélo et l'entretenir à l'atelier. Donc, finalement, même au niveau du fonctionnement, en fait, en location de vélo, ça aurait sûrement coûté plus cher. Et puis pour notre gestion à nous, c'était aussi beaucoup plus pratique en fait de les vendre que de les louer, parce qu'on a des vélos en fait de tout type en fait, hein, qui nous arrivent, qu'on nous donne. On fixe les prix du vélo en fonction du type de vélo. Pour la location, ça aurait peut-être été plus compliqué. Puis en termes de responsabilité pour l'association aussi, c'est quand même plus simple d'avoir un vélo qui est vendu plutôt qu'un vélo qui est loué.
Ouais. Tout à fait. Pierre Titelin, merci. Merci à vous pour ce témoignage qui pourrait susciter des envies de développer le même concept au sein de certaines entreprises ou d'autres structures. Hein, ce serait possible. Et je suppose que le vélo est pour vous un moyen de transport idéal et que vous êtes vous-même cycliste.
Alors oui, bien sûr. En fait, donc que ce soit moi ou les collègues qui ont démarré ça, on est tous des cyclistes, hein, des cyclistes du quotidien, pas des cyclistes sportifs en fait, hein, des cyclistes qui utilisent le vélo vraiment pour se déplacer au jour le jour. Moi, je vais au travail à vélo tous les jours, mes enfants vont à l'école à vélo, et finalement, même à titre personnel, en fait, il y a 5 ans, on s'est rendu compte dans la famille que notre voiture, elle avait fait que 1000 km sur l'année, donc on s'est dit, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la vendre, on n'en a plus besoin de cette voiture. Donc on l'a revendue et maintenant, on est libre sans voiture, on n'a plus de voiture. Alors peut-être un petit une dernière chose que je voulais dire aussi, que j'ai oublié juste avant, c'est que en fait notre atelier, en fait c'est pas le seul en France, hein, on en a parlé, on a des ateliers comme ça sur toute la France et on fait partie d'un réseau, le réseau qui s'appelle l'Heureux Cyclage, en deux mots, heureux et cyclage, et qui fédère justement tous ces ateliers vélo participatifs et solidaires. Et donc en fait c'est un mouvement qui est en marche et qui se développe de plus en plus partout en France et ailleurs.
Mais est-ce que vous aussi, autre chose, est-ce que vous croyez que le cycliste est suffisamment en sécurité sur nos routes?
Alors oui, alors la question est bien posée justement. En fait, le cycliste, il faut savoir que ce qui est dangereux, en fait, déjà, c'est pas le vélo, c'est la voiture, la plupart du temps, hein, c'est la voiture qui rend dangereux en fait l'utilisation du vélo. Et quand on circule en ville, c'est pas là où c'est le plus dangereux. En fait, faut savoir que la personne qui est la plus vulnérable à vélo dans les statistiques, c'est plutôt la personne d'une soixantaine d'années qui fait du vélo de course en campagne. Et c'est elle qui est la plus vulnérable au niveau de sa sécurité. Donc circuler à vélo en ville, ça peut faire peur en fait quand on n'a pas l'habitude, mais finalement en ville les vitesses sont quand même raisonnables, les vitesses des véhicules, les autres véhicules sont plus raisonnables qu'à la campagne par exemple. Donc la circulation à vélo en ville, c'est pas la situation la plus dangereuse. Il faut savoir que le vélo est beaucoup 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 moins dangereux que le deux roues motorisé, que ce soit le scooter ou la moto. Voilà, il y a beaucoup moins d'accidents de vélo que de moto, enfin d'accidents graves de vélo que de vélo ou de moto ou de scooter.
Alors faire attention aux cyclistes quand on est automobiliste, voilà un bel exemple de fraternité. Et je crois que Julien a une question à vous poser, Pierre.
Tout à fait, bonjour Pierre Titelin, et pour rebondir sur ce que vous disiez en ce qui concerne effectivement la sécurité des cyclistes, vous n'êtes pas sans savoir que le port du casque a été rendu obligatoire, le port du casque à vélo pour les enfants de moins de 12 ans, et on apprend notamment dans un article de Libération que c'est une mesure qui ne fait pas l'unanimité, certaines associations ironisant un petit peu sur le fait que si on commence à mettre le casque sur la tête des enfants à vélo, et peut-être de manière plus générale aussi sur les adultes, on peut mettre un casque pour tout et n'importe quoi, et du coup je voulais savoir un petit peu quelle a été votre position sur ce port du casque chez les cyclistes.
Oui, alors tout à fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui, alors j'allais dire qui fait débat, mais finalement chez les cyclistes du quotidien, ça fait pas tant que ça débat, parce que la plupart des associations qui regroupent les cyclistes au quotidien sont contre l'obligation du port du casque, que ce soit pour les enfants ou pour l'ensemble des personnes, parce que ça justement, ça montrerait que le vélo est dangereux, enfin ça passe le message que le vélo est dangereux, et ce qui fait que quand ça a été adopté dans d'autres pays, en fait on a des retour dans plein d'autres pays, ça a baissé le nombre de cyclistes qui circulaient en ville, et qui circulaient tout court d'ailleurs. Et en fait, le fait qu'il y ait moins de cyclistes sur les routes, ça fait que rouler à vélo, bah, ça devient plus dangereux. Donc finalement, en fait, le fait d'obliger à porter le casque, ça rend plus dangereux de rouler à vélo, et parce que il y a moins de cyclistes. Et aussi en fait nous, enfin ce que disent la plupart des associations de cyclistes, c'est que l'important aujourd'hui c'est de lutter contre la sédentarité, contre les gens, alors les jeunes en particulier, qui sont accrochés à leurs écrans et qui ne font plus d'activité sportive. Et en fait le fait d'obliger à mettre un casque, surtout jusqu'à 12 ans au moment du collège où ça pourrait être vraiment intéressant, bah ça peut décourager des jeunes comme ça qui vont pas faire d'activité physique. Et en fait au niveau santé publique c'est une catastrophe, parce que ça augmente l'obésité, ça augmente
les maladies cardiovasculaires.
Et finalement en fait on comprend vraiment pas pourquoi le gouvernement a adopté une mesure comme ça, parce que en fait finalement ça augmente tous les risques, ça augmente le nombre de, enfin la dangerosité du vélo. Et en fait, effectivement, comme peut-être j'ai pas lu, mais comme peut-être a été dit dans Libération, pourquoi pas dans les voitures, parce que quand il y a un accident de voiture, ben oui, ce serait important d'avoir un casque pour pas avoir un traumatisme crânien, pas plus que dans les vélos. L'important, en fait, c'est plutôt de sécuriser la route plutôt que d'essayer d'éviter certains traumatismes pour les personnes qui sont sur les vélos. Donc promouvoir les aménagements cyclables, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intelligent, on va dire, que d'imposer une réglementation sur le port du casque comme ça a été fait.
Eh bien voilà, Julien, tu as l'avis d'un cycliste.
Voilà. Et de même la Fédération nationale des cyclistes de ville, hein, c'est son avis aussi.
En tout cas, Pierre Titelin, merci.
Merci à vous, vous
donnez le, en même temps que le prêt du vélo, vous prêtez le cadenas qui va avec.
Alors, on vend effectivement des cadenas aussi qu'on rachète à la fin de l'année. On prête pas, on vend.
Pierre Titelin, merci. Merci à vous.
Bonne journée. Au
revoir. Bonne journée.
Oui, et puis pour rebondir aussi sur ce que disait Pierre Titelin, Martine, on rappelle qu'en radio, le port du casque, lui aussi, est vivement recommandé, n'est-ce pas? Dans quelques instants, nous allons retrouver Guillaume Essen de la Ligue de l'Enseignement pour parler justement des initiatives à venir autour de l'éco-citoyenneté et du développement durable. Mais juste avant cela, une chanson de circonstance qui fait le lien avec notre invité précédent. Il s'agit de Juliette avec Un petit vélo rouillé.
Petit vélo rouillé dans un grincement minable tourne sur mon oreiller une ronde interminable. Il va le guidon tordu, braque-balle et revoilé, indifférent et têtu, sur le point de dérailler. Petite reine abîmée par ses courses sans victoire qui laisse mon âme tachée du cambouis des idées noires. Ainsi vont mes nuits sans toi à le regarder tourner en comptant du bout des doigts ces tours de piste obstinées. Petit vélo rouillé dans un grincement bizarre n'en finit pas de rallier la raison au cauchemar. Il va en suivant sa route sans pilote ni passager. Ce n'est rien qu'un petit doute dont les freins auraient lâché. Et sur la piste ensablée des bas-fonds de ma mémoire, il fait intinabuler la sonnette des cils noirs. Ainsi vont mes nuits sans toi à le regarder tourner en comptant du bout des doigts ces tours de piste obstinées.
653e tour, l'amour est dépassé par la jalousie. Mortel.
Un petit vélo rouillé dans un grincement sordide prend un chemin embrouillé, pédale dans le vide. Il va roulant sur la jante, de plus en plus déglingué, traçant d'une roue méchante cercle vicieux et vicié. Pour ne pas le voir zigzaguer, je crains qu'il ne soit trop tard. J'ai sur mes deux yeux crevés la rustine des cils noirs. Ainsi vont mes nuits sans toi à le regarder tourner en comptant du bout des doigts ces tours de piste obstinées.
1247e tour. Quelques dîners de mort font une apparition remarquée.
Ainsi vont mes nuits sans toi, soufflant et suant mille peines, dans le désert de nos draps, attendant que tu reviennes. Tu vas d'un mot adorable sûrement le faire tomber, ce petit vélo misérable qui m'aura le cœur cassé. Il n'y a que toi pour montrer combien il est dérisoire, tout en pièces détachées, le cycle des idées noires. Mais je sais qu'il reviendra quand tu auras le dos tourné. Réparé, il reprendra ses tours de piste obstinées.
Un
Et c'était Juliette à l'instant sur les ondes de Radio Plus avec un petit vélo rouillé. Alors vous venez de l'entendre, hein, on a mis en lumière tout au long de cette matinée, et on continuera d'ailleurs à le faire cet après-midi, des initiatives portées par des associations tout au long de l'année. Et puis dans le cadre de cette semaine départementale Fête la Fraternité, eh bien il y a également des actions ponctuelles et notamment en matière d'éco-citoyenneté et de développement durable qui est le thème que nous abordons en cette fin de matinée. Et pour évoquer justement eh bien ces actions, Guillaume Essen que l'on retrouve de la Ligue de l'Enseignement. Alors quelques actions peut-être à mettre en valeur sur ces thématiques d'éco-citoyenneté et de développement durable, action qui se déroule, je le rappelle, dans tout le Pas-de-Calais.
Oui. Principalement, les actions sur la thématique de l'éco-citoyenneté ont eu lieu sur le littoral, le Calaisis plus particulièrement. Donc, il y a eu mercredi, donc hier, une balade à vélo organisée par l'association Opal Vélo Service. Donc on reste dans le thème du vélo, qui eux prêtent des vélos mais en vendent aussi, avec toute cette idée de partage des connaissances, d'ateliers vélo, une association qui œuvre depuis un moment sur le vélo. Une balade à vélo qui a emmené les participants jusqu'au CER municipal de Calais, où les participants ont pu découvrir les différentes variétés de plantes qui sont cultivées et plantées dans la ville. Il y a eu aussi à Calais d'autres actions sur cette thématique. Donc le centre social Espace Fort de Calais, c'était mardi, a fait des ateliers de fabrication naturelle de produits d'entretien, produits ménagers, qu'on peut un atelier pour faire des produits qui n'utilisent pas des produits trop chimiques ou pas de produits chimiques. Dans le même esprit, Nature et Savoir-Faire, toujours à Calais, ce mercredi, a réalisé la fabrication de produits naturels, d'hygiène, tout ce qui est savon, produits de beauté. Et il y a eu à Marc, donc tout à côté de Calais, hein, au centre social Jacques-Yves Cousteau, une soirée troc échange de biens. Donc là on est sur une thématique de réemploi, réutilisation et éviter le gaspillage et la surproduction inutile, avec une soirée troc échange.
D'autres actions peut-être à mettre en valeur qui n'auraient pas encore eu lieu sur ce thème ou particulièrement ?
Sur ce thème, malheureusement, c'est fini pour cette semaine. Là, il va y avoir surtout des projets à thématique culturelle, puisque le week-end arrive. Donc ce samedi va être très très riche avec de très nombreuses manifestations culturelles un peu partout sur le département et plus près d'ici.
On aura effectivement sans doute l'occasion de les évoquer dans le courant de l'après-midi. Alors oui. Comment la Ligue de l'Enseignement justement encourage-t-elle l'éco-citoyenneté et le développement durable ?
Alors déjà, principalement pour nous, ça se passe dans l'éducation à l'éco-citoyenneté au centre Les Argousiers. Donc on avait déjà eu l'occasion d'en parler, il me semble, il y a quelques mois, mais c'est à Merlimont, donc près de Berck, pour ceux qui connaissent. À Merlimont, il y a un centre d'accueil de groupes scolaires, mais pas que, mais principalement des groupes scolaires qui viennent en classe découverte pour en général une semaine. Et donc là-bas, on sensibilise les élèves, les jeunes en général, à la nature, donc la biodiversité dans les dunes, la préservation du littoral avec des balades dans les dunes sur les différentes variétés, la pêche à pied, les balades littorales sur tout un ensemble de comment on préserve en fait ces paysages qui sont magnifiques.
Guillaume Essen, merci d'avoir réagi sur cette thématique de l'éco-citoyenneté et du développement durable. On arrive à la fin de cette matinée. L'émission spéciale va continuer bien sûr dans quelques instants à partir de 13h. C'est l'occasion eh bien, pour moi et de la part de Jean-Philippe également de remercier Martine qui ne nous accompagnera pas sur cet après-midi parce qu'elle a d'autres obligations. Donc merci Martine en tout cas de ton aide à la préparation de cette émission et également de nous avoir présenté quelques intervenants à l'occasion de cette thématique qui t'est chère, de l'éco-citoyenneté et du développement durable. On te retrouve bien sûr lundi également pour l'air du temps avec d'autres sujets à aborder tout aussi intéressants et avec d'autres invités tout aussi passionnés. Et bien sûr, vous restez avec nous sur le 104.3 puisque vous allez retrouver à partir de 13h eh bien des reportages autour de la lutte contre les discriminations mais aussi autour de la responsabilisation des jeunes. Voilà qui fera le pont d'ailleurs avec nos thématiques de cet après-midi puisque dès 14h on parlera responsabilisation des jeunes avec notamment un large passage, un large chapitre consacré au service civique et on parlera également de démocratie participative, là encore avec de nombreux invités. Excellente fin de matinée à l'écoute du 104.3 et restez bien sûr bien fidèles. Nous sommes ensemble pour cette émission spéciale plus de fraternité jusqu'à 16h.
La radio 100% plaisir.